Luc 19, 11. C'est la parabole des mines qui a un peu son équivalent dans Matthieu, qui parle là des talents, sachant que la mine vaut, je ne me rappelle plus, je l'avais noté quelque part, 60 cycles, je crois, ou 20 cycles et le talent 60 cycles. Ce n'est pas tout à fait la même valeur de monnaie, mais il s'agit de monnaie. Quand on va parler de la mine, ce n'est pas la mine où il y a le charbon, où on extrait le charbon, c'est la mine, l'équivalent de l'euro ou du franc, etc. De l'époque où Jésus était sur la terre. Alors ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait apparaître. Et il s'agit à nouveau de ce fameux royaume. Alors là, on va le voir sous une autre forme, comment se manifeste le royaume de Dieu. Et il pensait qu'il allait apparaître voilà, instantanément. Et c'est vrai qu'il est apparu avec Jésus, mais ils ne l'ont pas vu. Il dit donc cette parabole. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Alors il faut bien comprendre qu'il en donna chacun une mine. Donc chaque serviteur a reçu une mine. Donc il y avait 10 serviteurs. Et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Donc un euro est rapporté 10 euros, voilà, l'équivalent en euros. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et lui dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je te retire avec un intérêt. Je le retire avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dit Jésus, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Il y aurait énormément de choses à tirer de cette parabole, vous imaginez bien. Je ne pourrais pas le faire ce matin. Je voudrais surtout vous enseigner sur le rapport sur les gouvernements des villes. C'est des questions qui se posent. Je sais que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Philippe Schmitt. Et je pense que le Seigneur m'a donné une révélation que je vais vous apporter ce matin sur voilà, ce que représentent ces gouvernements des 10 villes et des 5 villes, etc. Donc ce que nous sommes amenés à faire dans l'éternité. Mais juste avant, je voudrais dire qu'il y a une autre polémique qui, sur la fin du verset, le verset 27, amenez ces gens et tuez-les en ma présence, ou égorgez-les en ma présence. Je dis, oh, ça peut pas, voilà, comment Jésus peut dire quelque chose d'aussi horrible, voyez ? Alors, il faut resituer, en fait, ce que c'est qu'une parabole. En fait, Jésus utilise une parabole d'une histoire qui est connu par les gens. En général, il s'appuie toujours sur une histoire quotidienne des gens qui sont connus. Et là, le maître qui se fait couronner, et une partie de ses concitoyens qui refusent son règne, lorsqu'il est effectivement couronné roi, il revient et règle ses comptes avec ses adversaires. Ce que Jésus raconte correspond réellement à ce qui se passait à l'époque par certains rois. Donc les gens connaissaient ces histoires. Aujourd'hui, on ne connaît plus ces histoires-là, parce qu'on n'a pas eu droit, déjà. Et bon, ils ne se manifestent pas de cette manière-là vis-à-vis de leurs adversaires, bien que certains le font, je ne donnerai pas de nom. Mais à l'époque, c'était connu. Des rois qui s'en vont, qui reviennent et qui égorgent ceux qui sont pas d'accord, effectivement, avec leur règne. Donc Jésus raconte cette parabole en essayant de soulever chez les auditeurs une compréhension sur le royaume de Dieu. Donc il s'agit de comprendre le message de cette parabole parce que Jésus évoque la situation des trois serviteurs qui l'ont confié différentes sommes d'argent. Donc dans Matthieu 24, ce sont des talents, mais bon, c'est juste la valeur qui change, mais le principe est le même. Et le maître doit se faire reconnaître comme roi. Il faut donc attendre un certain laps de temps. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a un laps de temps entre la recherche de sa royauté et l'exercice lorsqu'il vient en retour. Donc il y a un laps de temps, ce qui correspond aujourd'hui au laps de temps de l'Église, où Jésus part et on l'attend pour son retour, donc on est dans ce laps de temps. Alors qu'on en attend que Jésus soit reconnu comme roi, Jésus souligne deux éléments. Tout d'abord que la manifestation de son règne n'est pas pour tout de suite. Il indique aussi que ceux qui s'opposent à lui s'expose à son jugement, parce qu'il y aura un jugement à la fin, et c'est ce qui attend aussi l'humanité, ce jugement. Jésus est le juge désigné par Dieu pour juger la terre, comme Pierre et Paul et Jésus lui-même l'ont annoncé. Ces jugements doivent ainsi assurer à ceux qui se confient en Jésus. Ils savent qu'ils ne risquent aucune condamnation, nous qui sommes déjà sauvé par le jugement qui s'est abattu sur Jésus à la croix. Nous ne risquons pas d'être condamnés parce que nous avons accepté Jésus à la croix. En revanche, Jésus adresse un avertissement solennel à ceux qui refusent de le reconnaître comme roi. S'ils persistent dans leur opposition, ils seront jugés, condamnés. Ils seront opposés au vrai roi qu'ils ont refusé de reconnaître sur eux comme le règne. Aujourd'hui, Jésus règne, nous l'avons chanté, nous voulons qu'il règne sur nous. Et s'ils refusent le pardon, eh bien, ils se condamnent eux-mêmes. Voilà. Alors les bouches, la parole de Jésus, les paroles que Jésus sont dures, bien sûr, mais il faut les entendre dans la bouche d'un roi. Il les met dans la bouche d'un roi de l'époque, hein, qui utilisait cela. Pour ce qui est de Jésus, en fait, cette parole nous enseigne que ceux qui ne le reconnaissent pas aujourd'hui, eh bien, il ne va pas s'imposer à eux dans l'éternité. Donc, en fait, ils sont jugés eux-mêmes. Donc, ce n'est pas égorgé au sens de les égorger, c'est simplement ils ne seront plus admis dans sa présence puisqu'ils n'en ont pas voulu. Hein, donc, Jésus est juste. Et donc, c'est un avertissement pour que aujourd'hui, tous ceux qui entendent sa voix, eh bien, puissent la reconnaître et entrer dans sa présence. Amen. Alors, pour revenir à ce que je vous ai dit, pour que je puisse éclairer la question de la rémunération de ceux qui ont placé pendant son absence, donc aujourd'hui, ce sont les dons, les charismes, les talents que nous avons reçus, si nous les mettons au service du Seigneur ou pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je vais essayer de l'illustrer au travers des dias que je vais vous montrer, qui s'appuient malheureusement toujours sur le modèle que le Seigneur m'a montré. Et ceux qui sont un peu privilégiés sur ce modèle, c'est ceux qui suivent la théologie du Nouveau Testament, de l'AD. Bien sûr, les autres, je suis un peu désolé, je ne peux pas passer autant de temps pour vous expliquer ce modèle. Mais le modèle, c'est simplement la théologie de l'AD, enfin la théologie du Nouveau Testament, si vous voulez expliquer par l'AD, qui l'explique, venez, en 800 pages. Alors que mon modèle, ça fait juste un tout petit modèle rapide. Donc c'est un résumé, extraordinaire qui se trouve dans ce modèle. Et vous avez toute l'explication dans ce volume qui est une étude biblique, si vous voulez. Une étude biblique, je la recommande à tous pour que vous puissiez mieux comprendre effectivement le modèle que je présente ici, qui est synthétique, mais qui est simplement l'étude biblique du royaume. Et vous avez vu que les disciples pensaient, enfin, à l'époque, pensaient que le royaume allait apparaître, mais ils le pensaient d'une certaine manière, et en fait Jésus était celui qui a porté le royaume, mais ils ne l'ont pas vu. Vous voyez. Donc si on n'a pas une connaissance vraiment de l'enseignement sur le royaume, on passe à côté, tout en pouvant être de très bonnes, comment on appelle ça, sincères. Hein. On peut être sincèrement dans l'erreur. Donc je vous encourage effectivement à étudier la question du royaume pour qu'elle soit bien comprise telle qu'elle est enseignée dans l'Écriture. Alors, voilà à nouveau la présentation de ce modèle, hein, de modèle individuel. Donc le modèle de l'individu, hein, qui est que nous sommes esprit, âme et corps, hein, que Dieu nous a créé l'être humain de manière tripartite, hein, esprit, âme et corps. Et là, vous voyez qu'ils sont alignés. Hein. Ils sont alignés parce que ça, c'est le modèle de Jésus. Hein. Jésus, le nouvel Adam. Jésus, le nouvel Adam, était dans cette configuration-là, ce qui n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas configurés naturellement de cette manière-là. Si on l'était, on serait comme Jésus. Et on est supposé être comme Jésus. Vous voyez que là, il y a le principe du bien, le principe de la vie. C'est ce qu'on appelle le siècle à venir, hein, qui est déjà là, mais qu'on ne voit pas. Et que Jésus a parfaitement réussi. Jésus a été celui qui est devenu homme, fils de l'homme. Il était fils de Dieu, il est devenu fils de l'homme au travers de sa venue, hein, qui bientôt nous allons célébrer à Noël, qui est venu et qui était parfaitement en union avec le Saint-Esprit, avec son Père, par le Saint-Esprit, qu'il a reçu au moment de son baptême, qui a été revêtu de l'onction. Eh bien, en esprit, il était en communion avec Dieu, en tant que fils de l'homme, et son âme a pu se conformer. Alors son âme, c'est notre autonomie à penser, à réfléchir, à prendre des décisions, à ressentir notre environnement, dans nos émotions, etc. Donc notre âme qui est liée au corps, toujours, puisque un corps sans âme est un cadavre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de cadavre au milieu de nous. Donc le corps et l'âme sont reliés. Et donc un corps sans âme est un cadavre et un âme sans corps est un fantôme. Donc nous ne sommes pas des fantômes ni des cadavres. Donc nous avons une âme et un corps, mais qui sont liés. Hein, on ne peut pas les dissocier. On ne peut ni dissocier l'âme du corps, ni dissocier l'âme de l'esprit. Ça, c'est des grands sujets qui sont débattus dans, au niveau de la philosophie, au niveau des spiritualités, etc. Mais la Bible dit que Dieu nous a créés comme ça. Et Jésus a pu vivre de cette manière-là ce que n'a pas fait Adam. Si on prend, voilà, donc il n'a jamais péché, hein, et il est ressuscité. Donc le corps, lui maintenant, il a de nouveau un corps de résurrection. Il y a 2000 ans, il a reçu ce corps-là. Il est toujours dans cette configuration d'homme, de fils de l'homme, avec un corps ressuscité. Et à la fin, lorsqu'il va venir, nous aussi, on aura ce corps-là, puisque ce sera la résurrection des saints. La résurrection des saints, nous revêtirons le même corps que Jésus aujourd'hui, parce que l'être humain est prévu pour vivre avec un corps, et pas comme un fantôme ou comme les esprits. Donc nous aurons toujours cette configuration, mais Jésus, il n'a jamais péché, donc il n'a pas été sur cela, bien qu'il soit né avec une âme et un corps comme nous, mais il a refusé la tentation, il a résisté à la tentation, il a gagné, et son corps a été ressuscité parce qu'il était juste, et que Dieu l'a reconnu comme juste, il l'a ressuscité. Donc, vous voyez, il n'a jamais été sur ce principe du siècle présent, c'est le principe du mal qui est héréditaire du mal. Si nous prenons le chrétien, en fait, le chrétien que nous sommes, hein, il le chrétien né de nouveau, hein, que nous sommes. Je ne parle pas du chrétien ritualiste, le chrétien qui va dans une église, parce qu'il aime la doctrine chrétienne. Mais le chrétien né de nouveau, et ça c'est l'enseignement dans Jean chapitre 3 de Jésus à Nicodème, il faut que pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Moi je préfère naître d'en haut, ça permet de mieux comprendre que là c'est le niveau supérieur qui est le siècle à venir et là c'est le siècle d'en bas. Donc naître de nouveau, naître d'en haut, c'est par le Saint-Esprit. Donc quand nous recevons par le Saint-Esprit cette nouvelle naissance que nous pouvons expérimenter par une relation avec Dieu, l'être humain naturel, l'esprit il existe potentiellement, mais il n'est pas éveillé. C'est un esprit qui est en attente d'être éveillé. Donc, il n'existe, cet esprit n'est éveillé que lorsque le Saint-Esprit vient pour nous éveiller à la présence de Dieu. Et donc, ça, c'est le chrétien qui est éveillé, mais il a aussi un âme et un corps. Mais où est-ce qu'il se trouve? Mais il se trouve en bas. Vous voyez, il se trouve sur le siècle présent. Et c'est là tout le problème que nous avons en tant que chrétiens, c'est que dans la réalité, nous sommes avec Christ dans le siècle à venir, mais nous sommes dans notre âme et dans notre corps, donc dans notre chair, nous sommes dans le siècle présent qui va se terminer par la mort. Donc nous sommes des morts vivants, si nous ne faisons rien. Parce que potentiellement, par contre, dans le principe, nous sommes sur l'autre siècle, potentiellement, dans son principe eschatologique. Pourquoi dans le principe eschatologique? C'est la fin a commencé avec la venue de Jésus, et la fin va se terminer avec son retour. Donc nous sommes dans un siècle où nous sommes entre deux fins, une fin de début, une fin de fin. C'est ce qu'on appelle l'eschatologie inaugurée et consommée. Ici, elle est inaugurée en Jésus, et là, elle est consommée dans son retour, lors de son retour. Et c'est là la difficulté. C'est pour ça qu'il y a besoin d'étudier un peu plus près la Bible pour comprendre que le royaume est venu, en Jésus, mais qu'il n'est pas encore vraiment là. En tout cas, il n'est pas visible. Il est vrai. Il est réel, mais pas visible. Par contre, un jour, il le sera visible. Par contre, ce qui est visible, c'est notre âme et notre corps. Hein. Nous le voyons. Notre intelligence, on peut l'exercer de toutes sortes de manières. Tout ça, c'est pas visible, mais c'est réel. Mais en tant que chrétien, nous devons passer de là à là. Voyez, et ça, c'est ce qu'on appelle la consécration. Si nous ne nous consacrons pas à Dieu, nous restons sur cet axe-là et nous sommes des chrétiens charnels. Il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. C'est ce que Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 15. Donc, vous voyez, il y a l'indicatif et l'impératif. L'indicatif, c'est que nous sommes en Christ, une nouvelle création, mais nous devons devenir une nouvelle création par le fait que nous nous consacrons. Et ça, c'est notre responsabilité de chrétien. Nous sommes coopérants avec Dieu et c'est ainsi que fonctionne le royaume. Donc ça, c'est juste un rappel, puisque vous savez tout ça. Il y a juste une chose que je rajoute là-dessus, c'est que on ne peut pas séparer l'âme de l'esprit, sauf par la parole. Et donc, si le chrétien ne lit pas la parole, s'il n'applique pas la parole, eh bien, il ne pourra pas passer de là à là, parce qu'il n'y a que la parole qui peut séparer l'âme de l'esprit. Parce que sinon, l'âme va entraîner l'esprit. L'esprit va s'étouffer. Voyez-vous. Donc il faut le séparer parce que il y a l'âme, l'esprit est dans la sainteté du Seigneur et l'âme est dans la corruption de ce monde. Voyez, qui est d'ailleurs, les idoles sont très très fortes ici. Donc il n'y a que l'utilisation de la parole de Dieu qui nous permet de ne pas corrompre notre âme, au contraire, que nous puissions, avec notre âme, nous élever dans le siècle à venir pour pouvoir discerner les choses, pouvoir être avertis des choses, pour que nous puissions agir dans le siècle à venir ici, que nous puissions être en communion avec l'Esprit et pas en communion avec les idoles. Donc ça, c'est sur le plan individuel. Sur le plan de l'Église, le modèle est valable aussi, tout simplement parce que si Ruben est chrétien et de nouveau, si Colette est de nouveau, si Rémi est de nouveau, si etc., etc., eh bien ça forme l'Église. Puisque le temple de Dieu, c'est Dieu qui est présent au milieu de son peuple. Et son peuple, autant Dieu nous a créés de manière individuelle, autant il veut que l'Église, dans sa corporéité, dans son ensemble, puisse accueillir la présence de Dieu. Donc l'Église, c'est simplement la somme des individus, ça s'appelle une communauté, commun, mettre les choses en commun. Et ce qui fait que le modèle est le même. Il est aussi en trois, comme l'individu. Et donc, l'esprit, qu'on a vu tout à l'heure, devient l'épouse. L'esprit, l'ensemble de tous ceux qui, en esprit, ont accepté Jésus, sont l'épouse. Donc l'épouse, ce n'est pas l'Église institutionnelle. Ce n'est pas une Église institution. Ce n'est que ceux qui sont en esprit avec Dieu sont l'épouse, et en face il y a un époux. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'Église, mais je ne parle pas de l'Église institutionnelle, je parle de l'Église des saints, de ceux qui sont nés de nouveau, eh bien ils ont un époux qui les attend. Et cette épouse, donc nous sommes dans des fiançailles, comme je dirais, en attendant le mariage qui va venir, vous le verrez tout à l'heure, qui va se faire à la fin, mais nous ne sommes pas encore là. Donc c'est une communauté spirituelle qui est universelle. De la même manière que quand nous sommes individuellement nés de l'Esprit, nous naissons dans la communauté de ceux qui sont déjà nés. Voyez-vous, c'est une communauté. De la même manière, une épouse ici, eh bien, nous sommes en liaison avec d'autres qui sont dans d'autres églises locales, qui sont également dans cette épouse. Il n'y a qu'une seule épouse. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que le modèle, il faut bien comprendre qu'il est universel et local. L'Église est universelle, nous sommes l'épouse, nous faisons une partie de cette épouse. C'est pour ça que l'Église locale est tout simplement la manifestation de l'Église universelle dans un endroit local, mais nous sommes universels aujourd'hui, nous sommes universels par le fait que nous sommes l'épouse manifestée, pas une partie de l'épouse, mais l'épouse manifestée en local. Donc là, c'est l'épouse qui est en lien spirituel avec l'épouse. C'est pour ça qu'on a chanté ce matin que Jésus est au milieu de nous, parce qu'il est réellement là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux en tant qu'Église. Et nous sommes aussi sur la terre, nous sommes aussi un État et une Ecclésia. L'Ecclésia, c'est l'Assemblée. L'Assemblée sur la terre. L'Assemblée qui se réunit pour vivre en tant que frères et sœurs le royaume, mais sur la terre. Donc nous sommes vraiment sur cet axe-là qui est le siècle présent. L'Église vit dans le siècle présent aussi. Donc nous avons les pieds sur la terre et, comme je dirais, le cœur, l'esprit est dans le ciel, en haut. L'État, c'est simplement aucun groupe humain ne peut vivre sans une organisation politique, une organisation qui gère cette communauté, qui gère le bien commun. Ici, on est dans le bien commun. L'État, ça peut prendre toutes les formes. Chez les frères, ça peut être un collège de frères. Chez les pentecôtistes, ça peut être une hiérarchie du pasteur. Ça peut être, bon, chez nous, c'est différent, c'est marqué là-bas, vous voyez. Ici, notre organisation de l'État, elle est là-bas, donc vous pouvez tous prendre connaissance de cette organisation. Elle est issue simplement du fait qu'on a vu qu'il y en avait d'autres qui ont échoué, et qui ont lamentablement échoué chez nous, dans les années 90, et donc on a reconsidéré les choses pour que l'État puisse être organisé de cette manière-là. Donc l'État, ça peut être manifesté différemment, suivant les églises, peu importe, mais c'est en local, on ne dit pas que l'Église, ici, c'est local, ici c'est universel, ici c'est local. On ne peut pas avoir de mélange entre l'universel et le local, comme par exemple dans l'Église catholique, où il y a une hiérarchie temporelle et spirituelle. Là, on ne trouve pas ce modèle dans le Nouveau Testament, en tout cas. On le trouve effectivement. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'Église institutionnelle. Ça, c'est l'Église telle que le Nouveau Testament nous l'enseigne. Donc ici, on a l'état ecclésia, qui est la communauté humaine locale, et nous sommes appelés, effectivement, à rentrer dans la maturité. Parce que ce qu'on devrait vivre en tant qu'Église, où la présence de Dieu se manifeste systématiquement avec puissance, avec grâce, on devrait vivre ici l'état ecclésia, donc ceux qui dirigent et ceux qui sont dans l'Assemblée, devraient être sur cet axe-là, qui est l'axe du siècle à venir. Et là, c'est ce qu'on appelle un réveil. Vous voyez ? Quand il y a un réveil, hein, ce n'est pas un artifice, c'est pas, voilà, c'est simplement quand l'Église est consacrée, l'Église humaine, je parle, puisque là, de toute façon, on y est par définition, par nature. Parce que sinon, si vous mettez une Église institutionnelle, ça n'existe pas. C'est pas une Église chrétienne. C'est une Église, voilà, qui a les valeurs chrétiennes, qui a les doctrines chrétiennes, bon, tout ça. Mais ce n'est pas l'Église du Nouveau Testament. L'Église de Jésus-Christ, c'est d'abord ici, mais ça, tout le monde est entré par la nouvelle naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, ici, il y a des églises qui peuvent tout le temps rester là, ça s'appelle les églises charnelles, et des églises spirituelles. Si vous regardez dans Apocalypse, les sept églises, hein, j'ai regardé minutieusement, mais il n'y en a qu'une qui est dans cette direction, c'est l'église de Philadelphie. Il y a d'autres églises qui sont charnelles, il y en a une à Thyatire, et toutes les autres sont totalement charnelles, à tel point qu'il y a même Jézabel, il y a même synagogue de Satan, enfin, c'est incroyable. Pourtant, c'est une église, puisqu'ils sont nés d'en haut. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils ont une responsabilité. Et nous, si on réalise qu'on a une responsabilité de nous consacrer, eh bien, nous cherchons à vivre dans le siècle à venir. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que le monde est mauvais. Ça veut dire que le système du monde est mauvais. C'est-à-dire que si nous nous laissons entraîner par le système du monde, et je disais à d'autres reprises qu'une église, si vous voulez, si on prend cet état-là, qui est l'église, spirituelle, eh bien, on le voit... on prend la température dans les réunions de prière de la semaine. C'est pour ça que tous les pasteurs de toutes les époques qui se veulent être évangéliques, ils disent « Regardez la réunion de prière. Parce que la réunion de prière, c'est là qu'on voit des gens qui ont conscience qu'ils doivent se consacrer, qu'ils doivent dépendre du Seigneur au niveau de la communauté, je parle. Je ne parle pas des prières individuelles. Là, on est dans la communauté, on n'est pas dans l'individu. Bien là, on s'aperçoit qu'on a conscience que la communauté a besoin d'être priante, par exemple, d'être évangélisatrice aussi. Là aussi, j'en parlais hier à notre chère gardienne Claire, voilà. Je dis, je ne sais pas, à notre époque, hein, je ne veux pas être le vieux qui rabâche son époque, mais notre époque, on était tout feu, tout flamme, je me rappelle avec Isabelle à Paris, l'évangélisation avec, comment il s'appelle, non, les drogués là, Teen Challenge, etc. Voilà. C'était tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, j'aimerais bien que cette église, les trentenaires, la quadragénaire, soit tout feu, tout flamme dans l'évangélisation. Voilà, je ne le vois pas. Moi, je ne peux pas, donner ce feu, cette flamme. Alors, bien sûr que c'est une autre façon peut-être d'évangéliser. Les gens sont plus difficiles à atteindre, mais qui est-ce qui va annoncer l'évangile ? On a tout un tas de moyens maintenant. Moi, je veux bien qu'on utilise Internet, Facebook. Moi, je m'en fiche, mais qu'on le fasse. Vous voyez ? Or, il se passe rien. Donc, là aussi, vous voyez, la consécration, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc, comment voulez-vous un réveil dans ces cas-là ? Vous voyez, ce modèle-là montre bien qu'il y a un déficit. Donc il faut prier, et on va s'attarder à prier. On a encore dans 15 jours un jeûne et prière de l'Église. Je vous invite à venir. On était très bénis la dernière fois. Il faut que l'Église se mobilise pour demander que chacun se réveille. Non pas dans l'esprit, parce que c'est une fois pour toutes. On ne peut pas nous le retirer. Jésus a dit, nul ne vous reverra de ma main. Par contre, dans notre âme, hein, et David disait, mon âme bénit l'Éternel. Il faut que notre âme, les décisions soient prises pour nous consacrer. Vous voyez, nous consacrer à l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, on peut prétendre devenir l'église de Philadelphie. Sinon, il n'y a aucune prétention possible. La réalité, c'est que on reste... Alors, très souvent, on est un peu au milieu. Hein. On va vers une maturité, mais voilà, à un moment donné, ma vie, il y a l'appel des choses de ce monde et tout ça. Donc, c'est le problème des priorités. Où sont nos priorités? C'est ça la question. Où est ma priorité? Au niveau de l'église, je parle. Au niveau individuel, j'espère que vous avez vos priorités, de la prière, de la consécration. C'est les dias précédentes. Là, on parle de l'église. L'église d'un corps, aussi bien spirituel que physique et que psychique. Et c'est ce corps-là, voyez-vous. Il n'y a pas... Philippiens 2, 12 et 13 dit « Travaillez votre salut ». C'est ça, travaillez votre salut. C'est-à-dire nous sommes sauvés, mais nous devons travailler notre salut. Travailler notre salut, et verset 13 dit « Car Dieu mettra en vous le vouloir et le faire. Car Dieu. » Donc, ça veut dire qu'on est déjà aidé avant même qu'on commence. Donc, c'est pas si dur que ça, mais il faut se mettre en route. Et vous, quand il est dit, c'est un impératif. Travaillez votre salut, c'est un impératif. L'indicatif, il est fait. Nous avons été sauvés en Jésus-Christ il y a 2000 ans, et nous le sommes par la foi. Mais le travailler votre salut, c'est un impératif. Est-ce que nous allons rentrer dans cet impératif, répondre à l'impératif, ou pas? C'est toute la question. Et c'est ça le réveil. Hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Le réveil, il est à portée de nous, simplement si nous nous consacrons au Seigneur en tant qu'Église. Donc là, c'est l'Église de Philadelphie que j'ai trouvée la seule à répondre à cet alignement entre l'épouse, l'État et l'Ecclésia. Alors, je vais vous parler de la parousie pour en arriver à ce que je vous ai promis. La parousie, c'est quoi? Parousie, ça veut dire quoi? Parousie, c'est du grec. Parousie, ça veut dire quoi? Pardon?
La présence.
Alors, ceux qui ont des Bibles anglaises, ils sont facilités parce que ça ne s'appelle pas Apocalypse. Nous, on a Apocalypse pour le dernier livre, mais eux, ils n'ont pas Apocalypse. Révélation. Vous voyez, si vous regardez sur la Bible anglaise, c'est révélation. Parce que le premier mot, c'est révélation. Nous, on a Apocalypse, je ne sais pas pourquoi. Révélation, ça veut dire que Jésus va se révéler tel qu'il est. Vous voyez, souvent avec Philippe, on en parlait, on a dit, mais le royaume, il est où? Mais il est là, sauf qu'on ne le voit pas. Mais là, il va être révélé. Le royaume de Dieu qui existe, il va être révélé. Aujourd'hui, il n'est pas révélé. Il faut attendre la révélation, il faut attendre l'Apocalypse. Et là, il va être révélé. Donc on est dans la fin, eschatologie veut dire la fin, consommée. Jésus est venu, il a inauguré la fin, et quand il va revenir, le retour de Jésus, ça va être consommé. C'est-à-dire que c'est la parenthèse qui va se refermer, c'est le temps de l'Église, et après on rentre dans l'éternité. C'est ça la réalité que nous allons vivre. Donc la parousie... Voilà comment ça se passe. Un jour, vous avez le livre de Daniel, je vous encourage à le lire dans cet esprit. Daniel, qui était la cour du roi Nebuchadnezzar, Babylone, vous voyez, donc c'est là-haut, hein, il a reçu la prophétie de tout ce qui allait se passer derrière, à tel point que des théologiens ont dit bah, il a été écrit ici parce qu'il ne pouvait pas savoir tout ça. Voilà, une fois de plus, on essaie d'expliquer la Bible à sa manière. Eh ben, Daniel a eu la révélation d'un songe que le roi Nebuchadnezzar a eu de la part de Dieu et qu'aucun sage, personne n'a pu expliquer. Et des conseillers lui ont dit, mais écoute, maître, tu as quelqu'un dans ton royaume qui est un esclave, effectivement, mais... qui reçoit les révélations de Dieu. Demande-lui de t'expliquer. Donc il a fait venir Daniel, qui a demandé à Dieu de le révéler. Il n'a pas, voilà, c'était pas un prophète ou visionnaire qui se comptait sur ses propres capacités, mais il a demandé à Dieu, Dieu lui a révélé. Et lui a révélé qu'il y aurait ces empires-là. Hein. Donc l'empire de Babylone, Médo-Perse, la Grèce, et l'empire romain. Et il a dit, voilà, ces royaumes-là vont se répéter, et à la fin de ces royaumes terrestres, eh bien, donc l'empire romain à la suite de Babylone, qui est l'archétype de l'orgueil humain. Vous savez que Babel est toujours présentée comme une ville opposée à Jérusalem. Babel est la ville de la rébellion. Jérusalem est la ville de l'obéissance à Dieu et de la présence de Dieu. Babel, commençons par Babel. Il y a ensuite, après l'empire médo-perse qui renverse Babylone, ensuite la Grèce avec Alexandre le Grand, et ensuite après l'empire romain. Et à la fin, il y aura un nouvel empire romain qui est figuré par les pieds. Eh bien, il va se passer quelque chose, la révélation. C'est tout simplement, tout à l'heure, je ne vais pas revenir en arrière, mais je vous avais montré, pardon, voilà. Je vous avais montré ici en haut à gauche l'épouse. L'épouse, c'est l'ensemble des saints qui sont dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans le repos, dans la présence du Seigneur, en attendant d'être révélés. Eh bien, c'est ça. Dans l'Apocalypse, c'est ça. Alors, je ne savais pas si ce matin il y aurait Marie-France ou pas, mais la prochaine fois, je vais lui demander de témoigner. Il a dit que son père, qui était pas croyant, alors que pratiquement tous ses frères et sœurs sont croyants, un jour, il a vu ça en vision. Et il racontait ça à ses enfants. Et avec les mesures, etc., ils ont dit, mais papa, comment tu sais ça? Alors vite, ils ont couru chercher une Bible, ils ont ouvert l'Apocalypse, ils ont vu que c'était exactement la vision qu'il avait, c'était ça. C'était la Jérusalem nouvelle, cette épouse, si vous voulez, qui descend du ciel. Inutile de dire qu'il s'est tourné vers le Seigneur, et jusqu'à la fin de sa vie, il était un militant chrétien formidable. Bon, je lui laisserai vous raconter ça. Mais il m'a dit ça dimanche dernier après le culte. Et vous voyez, ici, là, alors c'est bien sûr symbolique d'une ville qui a ces dimensions-là de perfection, qui va descendre. Et ça, c'est au moment de la parousie, du retour du Seigneur. Et nous attendons ce retour. Même l'Église catholique, elle est là dans ses principes, bien sûr, puisque c'est évidemment expliqué dans la Bible. Eh bien, c'est cette ville-là, quand il va venir, elle va détruire le dernier royaume, elle va tomber sur les pieds et l'ensemble de l'Empire va s'écrouler. C'est quoi, là, l'interprétation de cette vision ? L'interprétation de la vision, c'est que ça représente les empires humains. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un empire. Quelle est la différence entre un empire et une royauté ? Pardon ? C'est quoi la différence entre un empire, ça c'est l'empire de Babylone, l'empire médo-perse, l'empire Grèce, l'empire romain, et là... c'est l'empire du royaume de Dieu. C'est quoi l'empire ? Voilà. Tout à fait. La royauté, c'est sur un royaume. C'est sur un peuple qui a une certaine homogénéité culturelle, langue, royaume de France, etc. Royaume d'Angleterre. Voilà, c'est sur un peuple qui a une certaine unité où il y a un roi qui règne. Un empire, effectivement, est différent. L'empire, il regroupe différents peuples, différents royaumes, avec des rois aussi, mais l'empereur est beaucoup plus important que le roi. D'ailleurs, empereur vient de imperium, alors là c'est du latin, cette fois-ci, qui veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, imperium, en latin ? Il n'y en a pas qui ont fait du latin. Moi, je n'en ai jamais fait, hein, non, à l'école. Mais s'il y en a qui en ont fait, ils peuvent le deviner. Non ? vous n'avez pas appris ça. Ça veut dire commander. C'est le commandeur, celui qui commande, le commandeur en chef. Napoléon, il s'est fait empereur, parce que c'est un terme militaire, si vous voulez, qui commande. Et c'est intéressant parce que il est dit que Jésus, actuellement, il règne, mais il fait quelque chose. Dans le règne invisible, il fait quelque chose. Et il fait quoi? Alors, il intercède, mais en rapport avec l'Empire, avec l'Empereur. En rapport avec l'Empereur, au commandement en chef de l'armée. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très important, ça. Il commande quoi? Il fait un combat spirituel. Il combat tous les ennemis. En ce moment, il combat tous les ennemis. C'est pour ça que la parousie n'est pas encore là, parce que tous les ennemis ne sont pas combattus. Alors là, ne me demandez pas de vous expliquer pourquoi, et pourquoi c'est si long, parce qu'il pourra un jour combattre tout le monde. Ceci étant, on voit dans Daniel, toujours dans Daniel, au chapitre 12, que ce n'est pas si évident que ça. C'est qu'il y a des puissances spirituelles, je parle du deuxième ciel, qui sont tellement puissantes que même les anges de Dieu ont du mal. Celui qui est venu voir Daniel, il a mis 21 jours pour passer un obstacle spirituel entre l'ange de Grèce, l'ange de Yavan, donc Grèce, l'ange de Perse, etc. Donc il y a un combat spirituel qui est terrible. On ne peut pas imaginer à tel point que ce combat est spirituel qui est terrible. Mais ça nous est révélé, voilà, une petite révélation de Daniel et d'autres endroits. Et il est dit que Jésus doit régner jusqu'à ce que ses ennemis soient sous ses pieds. Il faut expliquer tout ça. Ce n'est pas la parole de Dieu, chaque parole a son importance. Il faut avoir une explication derrière. C'est l'intérêt de cette théologie du royaume qui nous aide à comprendre ça, dans la cohérence. Ben Jésus aujourd'hui règne, mais tous ses ennemis, on parlait d'ennemis tout à l'heure, qui vont être vengés à la fin et qui vont être égorgés, et c'est le cas de toutes ces puissances qui vont être égorgées parce qu'ils seront dans les peines éternelles, ne pourront plus rien faire, mais en attendant, il y a un combat énorme qui se produit. Alors écoutez aussi John Paul Jackson, je vous l'ai déjà dit, il explique beaucoup mieux que moi ce qu'il a reçu, ce charisme de comprendre ces choses du combat spirituel. Et il y a un réel combat spirituel. Et si nous ne prions, quand nous prions en Église, nous agissons sur ce combat spirituel, voyez-vous. C'est pour ça que c'est important. En tant qu'Église, la prière a un impact. Et quand on commence à réaliser ça, on comprend mieux, on prend conscience de ce que nous faisons. Sinon, on brasse un petit peu de vide. Bon, c'est par la foi, c'est toujours bien. Mais quand on comprend ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle la vision. Vision du monde. Vision. Il faut avoir une vision. Voyez. Si vous n'avez pas de vision, vous marchez dans le brouillard, vous ne savez pas pourquoi vous faites ça. Et là, Jésus, il est en train de combattre avec ses anges tous ses ennemis. Il fait quelque chose. Il combat. D'ailleurs, quand il est venu sur Terre, qu'est-ce qu'il a dit? Son première raison d'être venu sur Terre, c'est quoi? Détruire les œuvres du diable. Pas des hommes. Pas des hommes. Du diable. Oui, si on enlève toutes ces choses et qu'on adoucit, qu'on essaie d'humaniser tout ça, ben on n'est plus dans la vérité chrétienne. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand il est parti, il continue à soumettre tous ses ennemis spirituels sous ses pieds. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore la parousie, mais il va bientôt arriver. Alors je reviens rapidement sur cette parousie, où quand Jésus va revenir, il va revenir avec son Église, avec tous ceux qui sont rachetés. Et il va descendre, où ça ? À quel endroit il va descendre? Sur Jérusalem. Alors là, notre planche vous montre ça, je l'ai un petit peu animé. Vous voyez, le mont Sion a toujours été dans l'Ancien Testament, dans la Bible, la montagne de Dieu. Toujours. C'est là que Dieu a choisi, déjà avec Abraham, mont Moriah, Isaac, Jacob, etc., Israël, etc. Et aujourd'hui, pourquoi Israël est revenu en 1948? C'est parce qu'il y a ce retour qui va se faire. Voyez-vous, Dieu a quand même la suite dans les idées, heureusement. Sinon, on ne les a pas, lui, il l'a. Eh bien, pourquoi en 48 il est venu? Parce que c'est là que Jésus va revenir avec son Église, qui, elle, existe déjà. Et nous sommes, et à ce moment-là, on appelle la première résurrection. Lorsque cette Église va descendre, immédiatement, notre corps va ressusciter et va le rejoindre. Voyez-vous ? C'est ça l'enseignement de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'immédiatement à ce moment-là, nous aurons la première résurrection. Il y a une deuxième résurrection qui va conduire au jugement. La première résurrection, nous l'aurons, et notre corps va immédiatement se transformer dans le corps de résurrection de Jésus. Et donc là, à Mont Sion, à Jérusalem, il va se passer quelque chose qui est la suivante, c'est que cette Jérusalem va descendre sur le Mont Sion. Et celui qui est avec elle, Jésus, va régner. Et là, il va régner sur la terre. Et là, il va installer son empire. Voyez-vous ? Non pas son royauté, son empire. Plus que la royauté, c'est l'empire. Parce qu'il est le commandement en chef qui a gagné le combat. Et il est dit dans un passage que je n'ai pas en tête, qu'il a traîné toutes les autorités sous l'arc de triomphe. Vous savez l'arc de triomphe à Paris ? C'est quoi ? Vous savez, Napoléon n'a rien inventé. Il a copié les Romains. On parle de l'Empire romain. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains quand ils avaient gagné une guerre, une victoire ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Voilà, ils prenaient les ennemis pour montrer au peuple qu'ils ont gagné. Ils les traînaient, enchaînaient, et ils passaient sous l'arc de triomphe. Et à Paris, ils passaient avec Napoléon sous l'arc de triomphe pour montrer que les ennemis sont vaincus et que maintenant on a gagné. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a vaincu les ennemis potentiellement à la croix, mais maintenant il est en train de les vaincre définitivement et il passe sous l'arc de triomphe pour montrer qu'ils sont vaincus. Et Jésus, lui, en tant qu'empereur, en tant que commandant en chef de ses armées, il va régner sur la terre. Alors 1000 ans, c'est symbolique, ça veut dire l'éternité. Ça veut dire un chiffre tellement important que on ne sait pas. Hein, c'est pas 1000 ans, comme un jour, etc. C'est l'éternité. Il va régner sur la terre. Alors, je reprends mon modèle pour le présenter sous la forme très simple. Mais là, si vous lisez George Ladd, c'est ce qui est expliqué. Hein. C'est que l'épouse que nous sommes en esprit, eh bien, descend et rejoint l'Église locale. C'est-à-dire qu'en localité, eh bien, nous avons toujours à gouverner sur des villes et sur des nations. C'est tout simple que ça. C'est-à-dire que l'Église, ce n'est pas juste un truc qui est temporaire. C'est quelque chose qui va se manifester lorsque Jésus va revenir et qu'il y aura un empire universel qui est mondial, parce que Jésus va régner sur toute la terre. Pendant ce temps-là, il y aura Satan qui sera enchaîné, qui sera déchaîné après et rentrera dans la nouvelle ère. Mais Christ est le gouvernement universel et nous sommes le peuple. Et dans les empires à l'époque, tous les ans, les serviteurs venaient une fois par an prêter serment à l'empereur pour le rester fidèle. Et c'est cette fidélité de tous les citoyens, de tous les citoyens du peuple, qui vont prêter serment. Nous allons prêter serment en venant à Jérusalem pour prêter serment en disant « Nous voulons être fidèles à toi, à cet empereur qui vient sur la terre. » C'est ce qui nous attend. Et ensuite, après, quand nous retournons dans nos villes, dans nos nations, eh bien, il y a un gouvernement parce que Jésus, qui est à Jérusalem, eh bien, il s'attend à ce qu'il y ait des serviteurs qui le servent et qui servent les nations, les cités, etc. Ce qu'on appelle des cités libres, des états-nations libres ou des cités-états libres, qui sont soumises librement à l'Empire. Donc ça, c'est le modèle de ce qui va se passer lorsque Jésus sera revenu. Les quatre E, donc époux, épouse, État, Ecclésia, eh bien, sont réunis sur la terre. Jésus est le roi et l'empereur, et lui va régner définitivement sur la terre. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va donner la royauté à son père après la deuxième résurrection et le jugement. Et il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, pour que Dieu soit tout et en tous. Ça, c'est un résumé de l'enseignement des Écritures. Donc, ici, on voit que l'Empire sera un vrai empire qui aura destitué tous les autres empires. Et aujourd'hui, je sais que sur Internet, il parlait du nouvel ordre mondial. On attend le nouvel ordre mondial. Parce que les gens savent que la planète, qui est un grand village, ne peut pas exister. Regardez l'écologie, regardez toutes les peurs aujourd'hui du climat. Ils disent qu'on ne peut pas gérer ça s'il n'y a pas un seul gouvernement. Donc, on pressent qu'il faut un gouvernement. Mais s'il y avait un gouvernement, d'ailleurs Attali, il en parle tout le temps, de ce gouvernement mondial, actuellement avec la corruption, vous pensez qu'il y a une personne qui, au niveau humain, puisse prendre la tête et gérer la planète correctement? Vous le croyez, vous? Ben non. Donc, vous voyez bien que la Bible nous montre qu'il y a effectivement une alternative, qui sera ce que les gens attendent, mais c'est Jésus qui va l'accomplir. C'est Jésus qui va être, qui est un fils de l'homme et fils de Dieu, qui va effectivement gérer la terre, mais avec justice, dans la paix. Et Jérusalem, c'est la ville de paix. Allô ? Melchisédek, c'était le roi de paix, roi de Salem. Bien, Jésus sera le roi de paix. Et là, ça prend sens. Et là, on voit où l'histoire veut venir. D'une part, elle est mondialiste, et d'autre part, elle est souverainiste. Parce qu'il y a la souveraineté des nations, souveraineté des villes, les cités-états, etc., qui sont gouvernées. Et c'est là que les saints, je reviens à ma parabole du début, les saints qui auront travaillé pendant cette terre à mettre en œuvre les charismes qu'ils ont reçus, qui les mettent en œuvre, eh bien, Dieu va les utiliser pour gouverner les villes et gouverner les nations. Alors, c'est à nous de décider. Est-ce que les dons qui nous sont donnés, et il y en a énormément, hein, est-ce qu'on va les utiliser? On pourra les utiliser que si nous sommes obéissants au Seigneur, si nous cherchons la consécration. Sinon, on va passer à côté. Vous voyez, ces dons-là, Dieu nous les donne pour les faire fructifier. Et quand il verra qu'on a réussi à les faire fructifier, il pourra nous donner cela à ce moment-là, pour gérer les villes. C'est pour ça qu'il a dit, ben, tu peux gérer 10 villes, puisque tu as rapporté 10, et l'autre 5, et l'autre qui n'en a pas reçu, eh bien, il pourra gérer rien du tout. Donc voilà, une dernière fois, la présentation de l'Empire. L'Épouse sera réunie à l'Épouse, et ici, à ce moment-là, l'État, l'Ecclésia, eh bien, on sera dans le siècle à venir, d'ailleurs le siècle présent se terminera avec le jugement, donc le mal ne peut plus atteindre. Le mal sera éradiqué totalement. Et ça, c'est le projet de Dieu pour nous dans cet empire qui est gouverné par un empereur, qui est Jésus, qui est roi des rois, seigneur des seigneurs, et au-dessus des rois. Et ceux qui gouverneront sur des nations, qui peuvent être aussi des rois, eh bien, ce sont des serviteurs zélés qui auront prouvé que dans le temps présent, ils ont pu se consacrer au Seigneur pour prendre soin de l'Église de Dieu, pour prendre soin par les charismes qu'ils ont reçus. Alors nous avons tous des charismes, tous. Il y a des charismes qui sont donnés de manière définitive, pasteurs, prophètes, etc., qui peuvent être définitifs. Et d'autres, demain dans le centre de Dieu, dans le dimanche matin, tout le monde peut recevoir des dons de guérison, des dons de foi, des dons d'autorité, des dons de... Et c'est ça, est-ce que nous saisissons ces dons pour les mettre à l'œuvre? Ça, c'est le problème de l'obéissance du chrétien. Et si Dieu voit ça, eh bien, il sait que par la suite, après la parousie, eh bien, il peut nous donner des gouvernements, parce qu'il y aura des villes à gouverner. Il y aura, parce que c'est la terre. C'est pour ça que j'aime bien Jean-Marc Potenti qui s'insurge un peu contre les évangéliques, qui dit ah, tout se passera au ciel. Non, ça se passera sur la terre. Tout se passera sur la terre. Mais il y aura effectivement la paix. Il y aura réellement, parce que celui qui régnera, c'est Jésus. Le vrai empereur, le vrai roi des rois, le vrai seigneur des seigneurs. Mais il aura besoin de nous, parce que sur la terre, il n'est pas partout. Sur la terre, nous, on sera chargés de ces gouvernements, des villes et des cités. Ça prend sens ? Ça, c'est une interprétation que le Seigneur m'a donnée. À partir justement de la compréhension de qui est l'Église. Si nous savons qui nous sommes, ça ne va pas s'arrêter à la mort. L'Église est quelque chose que Dieu s'est acquis. S'est acquis. Par son sang. Et cette Église, elle va être pérenne, elle va se transformer dans ce gouvernement mondial, ce gouvernement qui va être conduit par le Seigneur lui-même, et que nous attendons, et que les hommes attendent aujourd'hui, mais qui ne l'attendent pas de cette façon, et qui va se manifester de cette façon. Nous allons prier. Seigneur, nous te demandons de nous aider à nous éclairer sur ta parole, Seigneur. Il y a peut-être des choses que nous n'avons pas encore comprises. Seigneur, aide-nous et ouvre nos yeux pour que nous puissions voir quel est notre degré de responsabilité aujourd'hui, sachant que ça va amener à des conséquences futures. Et Seigneur, que ces responsabilités, nous puissions les assumer aujourd'hui. C'est ça l'important. Seigneur, toutes ces choses qui vont venir nous encouragent, c'est vrai. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nous puissions vivre dans l'obéissance à ta parole aujourd'hui. Et que nous puissions avoir un sens à notre destinée, à notre vie. Un sens, Seigneur, qui, effectivement, concerne tout l'être humain, toute la planète. Mais, Seigneur, toi, tu as un plan et tu vas le réaliser. Nous t'en remercions d'avance, dans le nom de Jésus. Amen.